Question politique, c'est en direct et ça commence maintenant. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Question politique, alors que nous sommes à un moment de vérité en Europe. La semaine prochaine s'annonce cruciale, d'abord à Bruxelles pour l'attribution des top jobs européens. Celui notamment de président de la Commission, semaine cruciale aussi aux États-Unis pour la succession de Theresa May et donc pour le Brexit. Notre invité jusqu'à 13h est la secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, qui s'est installée dans notre studio. Pour intervenir, le hashtag #QuestionPol ou l'application France Inter.
France Inter. Question politique. Ali Badou.
Bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger. Elles joueront demain contre le Nigeria, mais elles sont avec nous aujourd'hui, l'équipe de questions politiques en bleu. Bonjour Nathalie Saint-Cricq.
Comment on s'entraîne? Bonjour.
De France Télévisions, Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
On aurait dû s'habiller en bleu, blanc, rouge.
C'est sûr.
Bonjour.
Et la prochaine fois, le micro est rouge. Votre portrait... Amélie de Montchalin a été préparée par Karine Bécard et nous le découvrirons ensemble dans quelques minutes. Commençons donc par cette semaine qui s'annonce cruciale en Europe avec des négociations pour les postes clés de l'UE. Est-ce que vous pourriez soutenir un candidat non francophone pour la présidence de la Commission européenne ?
Ce qui est sûr, c'est qu'on soutiendra d'abord un candidat qui est d'accord avec nos priorités. Je pense qu'il y a bien d'autres critères à mettre en avant, que ce soit des questions de drapeau, des questions de pratique du français. Ça serait bien que cette personne parle français.
C'est la première fois.
Non, ce serait bien que cette personne parle français, ça c'est clair.
Mais est-ce que ce serait possible que la France soutienne pour la première fois depuis la naissance de l'Union européenne un candidat qui ne soit pas francophone ?
On aimerait qu'il parle français, mais maintenant... Il faudrait. Après, il y a des candidats très bons qui parlent peut-être pas aussi bien français,
oui,
qu'on le rêverait.
Est-ce maintenant, qu'on est donc prêt à changer?
La clé de cette affaire. Oui, on est prêt à changer beaucoup de choses.
De doctrine.
On est prêt à changer beaucoup de choses. On est prêt à changer de doctrine parce que si on suit la façon dont tous les présidents de la Commission ont été nommés récemment, eh bien, je peux vous dire qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans 5 ans, quand il y aura des élections européennes, eh bien, les citoyens, ils nous feront peut-être pas confiance.
Mais donc, je vais passer la parole à la France à Fressos, mais donc, oui. La France peut soutenir un candidat non francophone.
Maintenant, on aimerait qu'il parle français, c'est quand même
européenne.
Une meilleure nouvelle.
Alors, éclairez-nous sur les propos d'Emmanuel Macron qui, cette semaine, dit finalement si Angela Merkel se présente à la Commission et candidate pour le poste de président de la Commission européenne, je la soutiendrai. Alors, expliquez-nous, parce qu'on avait plutôt l'impression qu'entre la France et l'Allemagne, ça marchait pas si bien que ça.
Alors, déjà, Amélie, il faut reposer un peu les choses. C'est l'avantage d'une émission comme celle-ci, c'est qu'on a le temps peut-être de clarifier ce qu'on essaie de faire et qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Il y a eu des élections européennes qui ont montré plusieurs choses. D'abord, que la participation était élevée et donc que l'Europe a intéressé cette fois-ci plus que d'habitude. Elle a aussi montré qu'il y avait un nouveau centre européen, très pro-européen, pas parce qu'on est des Européens, mais parce qu'on a envie de changer beaucoup de choses et qu'on pense qu'il y a beaucoup de questions qui intéressent les citoyens, qui se règlent au niveau européen, qui est quand même une dynamique nouvelle. Et il y a toujours un avertissement, c'est-à-dire que l'extrême droite, les eurosceptiques, ils sont moins forts que ce qu'on aurait pu craindre, mais ils restent forts. Et donc ce qu'on dit depuis quelques semaines maintenant, c'est qu'il faut qu'on soit d'abord extrêmement exigeant sur le projet. Qu'est-ce qu'on veut faire pendant les 5 ans qui viennent au niveau européen? Qu'est-ce qu'on fait pour être fidèle aussi au message qu'ont envoyé les électeurs? Et donc on parle aujourd'hui beaucoup, et la France et le travail que je mène et que mène le président, c'est d'abord et avant tout de rehausser l'ambition européenne sur le climat, sur les frontières, sur la politique industrielle, sur la concurrence, sur l'Europe du social, et on pourra y revenir en détail si vous voulez. Et donc le choix ensuite de savoir qui sont les personnes qui peuvent porter ce projet, c'est un choix qui pour nous arrive en deuxième position. Et il faut qu'il y ait un accord au Parlement, il faut qu'il y ait un accord au Conseil européen, c'est un système de double majorité. Et la bonne nouvelle, c'est que pour y trouver une double majorité, si vous regardez, faites juste un concours de beauté, juste un concours de drapeau, et que vous regardez les attributs, les qualités, le nombre de langues que parlent les uns les autres, probablement qu'on va pas tomber sur la personne
qui a répondu sur Angela Merkel.
Et donc ce que dit le président en Suisse cette semaine, c'est qu'on lui demande quel est le bon candidat pour vous. Et il dit, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de l'énergie, qui connaît l'Europe, qui a envie de la faire avancer, qui a de l'ambition. Et le journaliste lui dit, est-ce que ça peut être Merkel? Et le président répond, écoutez, puisqu'elle correspond effectivement aux critères que j'ai énoncés, si elle est candidate, pourquoi pas? Le problème, c'est pas un problème de France et d'Allemagne. Le problème, c'est aujourd'hui, ou c'est même pas un problème, mais l'ambition qu'on doit avoir, c'est quel résultat on est capable d'apporter aux citoyens européens pour qu'aux prochaines élections, ils votent par adhésion, parce qu'ils ont vu qu'il s'est passé des choses et pas par dépit. Et donc pour ça, oui, il nous faut quelqu'un qui a des épaules et qui a l'expérience.
Si vous êtes attaché à l'expression du suffrage universel, pourquoi tout simplement ne pas nommer le candidat du parti qui est arrivé en tête?
Mais parce qu'il n'a pas la majorité absolue.
Oui, mais malgré tout.
Et parce que
tout,
ce candidat.
C'est la première force politique au Parlement européen.
Emmanuel Macron c'est a fait campagne pendant des mois pour qu'on ait des listes transnationales. Pour qu'on dise. Ce qu'on aimerait, effectivement, c'est qu'il y ait des listes qui soient composées.
Pour que tout le monde comprenne, c'est
de citoyens de tous les pays.
Qui est le candidat, donc, du PPE, le parti de droite.
L'idée qu'on avait, européen. C'était de dire, on veut des listes qui aient des citoyens et des candidats de tous les pays. Comme ça, Manfred Weber ou les autres auraient fait campagne dans tous les pays européens. Ça lui aurait donné une vraie légitimité. Et dans ce cas-là, ça aurait été logique qu'il devienne président de la Commission. Mais ce Manfred Weber ou les autres, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'ils ont fait campagne en France?
En
est-ce que d'ailleurs, il est d'accord avec ce sur quoi les LR ont fait campagne en France? Pas toujours.
Mais est-ce que vous êtes pas opposé un peu rapidement, en fait, à Manfred Weber? Et finalement, est-ce que les propos de Emmanuel Macron en Suisse n'étaient pas un peu pour, peut-être pas se racheter, mais pour retendre la main à l'Allemagne, puisque entre Merkel et Macron, ça a été un petit peu compliqué quand même ces dernières semaines?
Le sujet, c'est pas Manfred Weber. Le sujet, c'est est-ce qu'on croit que ces élections ont changé quelque chose au paysage politique européen? Et vous imaginez le signal? Imaginez. Donc, dimanche 26, on a les élections. Le 28 mai à Bruxelles, dîner des chefs d'État, ils disent bah voilà, c'est super, on a déjà notre candidat, tout est plié. Et il se passe exactement la même chose que s'il ne s'était rien passé dimanche.
Bon, vous voyez le signal, donc, la Macronie qui immédiatement dit Manfred Weber, il ne nous intéresse
pas,
c'est quand même très étrange.
On a dit c'est on ne croit pas à l'automaticité. On veut avoir un vrai débat sur le contenu, ça s'appelle l'agenda stratégique. C'est ça qui va être discuté jeudi et vendredi par les chefs d'État. Et tant qu'on n'est pas d'accord sur l'agenda stratégique, on a quand même beaucoup de mal à savoir qui est la bonne personne pour porter le projet.
C'est Nathalie Saint-Cricq.
Est-ce qu'on peut comprendre ce qui est arrivé à Nathalie Loiseau?
N'oubliez pas le micro, Nathalie Saint-Cricq.
Tout à l'heure, vous avez parlé de quelqu'un qui devait... Emmanuel Macron avait dressé un profil ou un portrait robot de quelqu'un qui devait être compétent, juste, ayant les capacités. Manifestement, elle, avec ses prises de position, alors off-on, elle a quand même dit un certain nombre de choses, elle affaiblit complètement la position de la France. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, elle était censée être très bonne.
Amélie de Montchalin.
Dans le domaine européen.
Il faut aussi reposer les choses. L'influence française, c'est exactement la même chose que ce que je vous dis pour la Commission. L'influence qu'on veut avoir, c'est d'abord que le projet avance. Et donc, ce que Nathalie Loiseau a fait avec courage, c'est de dire, je préfère ne pas mettre tous nos... Parce qu'il y a un système de points très compliqué au Parlement européen.
C'est un choix.
Je préfère, par choix, ne pas mettre tous nos points de la délégation française Renaissance dans le fait que je devienne présidente du groupe. Je préfère garder mes points.
Plus aucune chance. C'est pas un vrai choix. C'est un
choix contraint. Comme on est la plus grosse délégation du groupe, on aurait pu forcer le coup et probablement y arriver. Et ce qu'on dit, c'est qu'on préfère avoir, vous voyez, des présidences de commission qui comptent. On préfère avoir des postes de coordinateur, des postes de rapporteur, qui sont des endroits où on peut beaucoup plus faire avancer nos priorités. Où on va pouvoir créer un office européen de l'asile, créer une banque européenne du climat, créer un salaire plancher en Europe. Mmh. Ça, c'est des choses sur lesquelles la France veut le faire. Pas parce que, par nationalisme, parce que par ambition pour le projet européen.
Malgré tout, Amélie Montchalin, c'est
ça qu'on est en train
d'organiser. Puisque vous parlez du fond, depuis le début de l'émission, et vous avez raison, et vous parlez des idées, et vous parlez de la stratégie, du contenu des politiques européennes. Comment jugez-vous les propos qu'a tenus Nathalie Loiseau à Bruxelles, qui sont maintenant connus, notamment grâce au journal Le Monde? Ces propos ont sidéré. Est-ce que c'était des propos irresponsables?
C'est des propos qui, effectivement, posent question. Parce que l'esprit dans lequel on veut travailler en Europe, c'est un esprit d'union, c'est un esprit de compromis, et c'est un esprit de consensus. Moi, vous savez, de là où je suis aujourd'hui...
Irresponsable?
Je ne vais pas qualifier ces propos, c'est des propos en off, je n'étais pas dans la pièce, et en général, quand les propos en off sont tenus, c'est bien parce qu'ils sont off. Donc moi, personnellement, je ne vais pas commenter plus au-delà ces propos, ils sont lus, plein de gens peuvent lire des choses qui sont attribuées.
Mais ils ont eu des conséquences politiques, on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas, ce que vous faites tout de suite.
Eh bien, c'est pour ça que je vous dis que, pour moi, l'influence française, soit on se concentre sur des personnes, les propos, et on reste à ce niveau-là.
Enfin, c'est elle qui a mis le problème sur la table.
Et donc, ce que je fais, moi, c'est on réunit tous les députés européens le 7 juin avec le Premier ministre et on explique les sujets
tous,
sur lesquels
on
les a tous invités.
Voilà.
Ensuite, sont venus ceux qui voulaient travailler dans un esprit de consensus, voilà. Parce que c'est l'esprit européen. Mmh. Et l'esprit européen, si chacun reste dans sa boutique et considère qu'il doit attendre, vous savez, personne n'a la majorité absolue. Donc, il ne se passe rien. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est réunir les parlementaires européens qui veulent travailler dans un esprit. Bien sûr qu'on ne va pas être d'accord sur tout. Mais on sait que si on se met d'accord sur rien, il ne se passera rien.
Est-ce que malgré tout, vous n'êtes pas arrivés, les macronistes, les eurodéputés macronistes, un peu trop en terrain conquis quand vous êtes arrivés à Bruxelles? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème quand même de comportement, d'attitude?
Amélie de Montchalin.
Moi, les députés que j'ai vus le 7 juin, je peux vous dire qu'ils étaient dans une optique de comprendre déjà comment fonctionne ce Parlement qui est extrêmement codifié. Notre délégation est assez spéciale. On a 79 députés, il n'y en a que 19 qui ont été déjà élus au Parlement européen. Dans tous les autres pays, les autres délégations, c'est l'inverse. Donc ils vont arriver dans un endroit où c'est un peu comme un match de tennis. Il y a l'interruption de la pluie, les joueurs sortent, ils reviennent. Et ben là, il faut qu'ils arrivent assez vite à rentrer dans le match, parce que le match, il est déjà bien avancé, les gens se connaissent. Donc les députés que j'ai rencontrés français à Renaissance, c'est des gens qui ont envie d'apprendre. Ils ont rencontré tout l'après-midi les ministres, ils sont déjà en train de travailler sur les dossiers, ils sont en train de se préparer, parce qu'il y a dès le mois de novembre, il y a des débats qui vont reprendre, et il n'y aura pas le temps de se demander.
Non, mais là, vous parlez des néophytes. Je parle de Pascal Canfin, par exemple, qui téléphone pour débaucher des eurodéputés verts. Est-ce que, par exemple, vous approuvez ce genre de démarche? Est-ce que vous-même, vous avez passé des coups de fil, je sais pas, au PPE pour essayer de récupérer
d'autres
eurodéputés?
Non, moi, je ne récupère personne. J'ai appelé, par contre, j'ai appelé François-Xavier Bellamy, j'ai appelé bien sûr, les Verts, j'ai appelé Sylvie Guillaume. Moi, j'appelle tout le monde pas pour les débaucher, mais pour leur dire pour l'Europe. Typiquement.
Et donc, est-ce que vous approuvez l'attitude
Moi, j'approuve le fait que Pascal Canfin, il a été député européen déjà pendant longtemps. Et il sait très bien que si on se parle pas entre groupes, on ne fait rien.
Alors que les gens comprennent, parce que on va perdre un peu tout le monde, il faut dire que donc c'était le 7 juin dernier.
Exactement.
Un vendredi, vous avez invité à Matignon pour un séminaire l'ensemble des eurodéputés élus français. Ils sont 74. 79 si les Britanniques s'en vont, parce que ça compte, le Brexit. Il y en a que 40 qui sont venus. Aucun élu de la France insoumise. Les élus de la place publique non plus ne sont pas venus.
Non, c'est pas vrai. Sylvie Guillaume était là, chef de délégation du
Raphaël
groupe socialiste.
Luxman.
Oui, mais Sylvie Guillaume est venue parce que c'était un accueil républicain. Elle a considéré
que
c'était
important. Il y en a 40 qui ne sont pas venus, ni Europe Écologie Les Verts, ni le Rassemblement National.
Non, ils étaient là.
Le Rassemblement National était là.
Donc, le Rassemblement National était là.
C'est la France Insoumise qui n'était pas là, c'est effectivement le PS, c'est
non,
les Verts.
Je tiens à dire que Sylvie Guillaume est venue en tant que chef de délégation. Pourquoi ça compte?
Mais pas les six. Les six n'étaient pas là.
Oui, mais parce qu'il y a un esprit européen. Les députés européens qui connaissent le Parlement européen, mm-hmm. ils voient très bien qu'un accueil républicain par le Premier ministre, avec la présence de ministres qui viennent leur parler, c'est important. Pourquoi? Parce que si on reste dans une logique franco-française, où il y aurait une majorité et une opposition, le Parlement européen fonctionne avec une dynamique très compliquée parce que vous avez plein de pays, vous avez donc plein de sensibilités. Il y a des sujets qui importent plus les Français que les Italiens ou que les Slovènes. C'est normal qu'on ait des sujets communs. L'Europe sociale, par exemple, le travail détaché, c'est des sujets qui réunissent des gens et de droite et de gauche et du centre en France parce qu'on sait que c'est une problématique qui nous concerne tous. On a parlé du siège de Strasbourg, c'est un sujet sur lequel on peut vraiment créer une équipe de France. Et puis il y a des gens comme les Verts, et je tiens à le dire, moi ça m'a beaucoup surpris. Qu'on fasse campagne, comme Yannick Jadot, pendant des semaines, en disant « la priorité, c'est le climat ». C'est une priorité qui doit normalement dépasser les clivages. Personne n'est propriétaire de l'écologie. Et qu'il est, alors qu'il a François de Rugy, Brune Poirson, le Premier ministre qui viennent parler de notre projet européen, qui saisissent pas l'occasion, il aurait pu nous présenter ses priorités. C'est d'ailleurs comme ça que ça a été fait. Les uns et les autres ont dit « on est d'accord avec des sensibilités françaises sur ci et ça, et nous, on portera plus fortement ci ou ça ». Que l'écologie, alors que c'est un sujet sur lequel on est prêt à avancer, ils saisissent pas la chance de vouloir nous expliquer comment ils veulent pousser des choses. Et il y a sûrement des choses sur lesquelles nous, gouvernement, au Conseil des ministres européens, on sera sûrement prêt à l'aider. Mais je trouve ça dommage qu'on en fasse un sujet de clivage, un sujet au fond assez sectaire.
Françoise Fressoze.
Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur l'agenda stratégique, c'est-à-dire ce qui va être discuté au Conseil européen? Quelles sont concrètement les priorités françaises pour la prochaine présidence?
Il y en a 3 ou 4 principales. L'agenda stratégique, il sera construit autour de 5 ou 6 points maximum. On essaie de faire quelque chose d'assez ramassé. Ça doit être des vraies priorités. Il y a bien sûr l'ambition climatique, que notre continent soit neutre en carbone en 2050. Et on aimerait porter cette voie-là dès le mois de septembre ensemble à New York. Il y a une priorité sociale. Comment on recrée une économie de marché social qui protège les droits des travailleurs et empêche aussi tous les dumpings sociaux et fiscaux à l'intérieur de l'Union.
Et mesures concrètes pour traduire ça, ça serait quoi?
Ça, c'est par exemple la poursuite du travail sur le travail détaché, à travail égal salaire égal, à travail égal charge sociale égale, que le chômage soit payé dans le pays où l'on travaille. Il y a bien sûr toutes les questions fiscales. On continue le travail sur l'harmonisation fiscale. Il y a ensuite une priorité qui est industrielle, économique. Comment à la fois on protège nos actifs stratégiques d'achat extérieur.
Et on remet en cause le droit de la concurrence.
Et donc il y a exactement une révision du droit de la concurrence pour qu'on puisse être en capacité de créer des champions européens sur des marchés où on sait qu'il y a une énorme concurrence chinoise ou américaine. Il y a des questions commerciales qui vont avec. Et la question commerciale, ça veut dire, par exemple, autant sur le climat que sur les normes sociales, est-ce qu'on est capable de créer une forme de réciprocité ou en tout cas une forme de principe pour que des produits qui viennent de pays où les normes, notamment environnementales et sociales, soient trop différentes des nôtres, n'arrivent pas en Europe faire concurrence frontale à des produits qui sont produits chez nous. Et puis, il y a ensuite tout ce qui a trait à la révision de la zone euro. Vous avez vu qu'il y a une énorme avancée avec, un accord sur la gouvernance et sur l'existence d'un budget de la zone euro.
Oui, on va y revenir. Ensuite, objectifs français quand même.
Oui, en montant, on n'est pas à ce qu'on avait imaginé.
Il n'y en a pas pour l'instant, quasiment pas.
Ça sera négocié dans le cadre du budget européen 2021-2027. Mais l'important, c'est que déjà, sur le principe, alors vous savez que beaucoup de pays avaient beaucoup de doutes, on ait réussi à acter les choses. Donc les priorités, et puis dernier point, il y a un énorme enjeu de protection à la fois sur la défense, sur les frontières et sur l'asile, qu'on puisse recréer une zone où, en termes de sécurité et d'enjeux régaliens, on recrée une forme d'harmonisation. Vous voyez que ça nous fait déjà pas mal de choses. Donc pour résumer, climat, frontières et protection, politique industrielle et économie sociale de marché.
Il y avait deux hypothèses sur les coalitions en jeu au Parlement européen. Il y avait la petite coalition où les macronistes pouvaient travailler finalement avec le PPE, c'est-à-dire avec les conservateurs et les socialistes. Puis il y avait une grande coalition où les Verts pouvaient venir en renfort. Quelle est l'hypothèse aujourd'hui la plus crédible ?
Amélie de Montchalin.
Eh bien, je crois qu'il y a au sein du groupe des Verts européens des gens qui sont assez partisans de la grande coalition, puis il y en a qui sont partisans de la petite coalition. Je crois que les Verts allemands, qui ont une culture du compromis par les pratiques politiques allemandes beaucoup plus fortes, voient bien l'intérêt de pouvoir peser sur l'agenda stratégique. Parce que l'agenda stratégique, il faut bien comprendre, il est d'abord proposé par les chefs d'État, ensuite le Parlement travaille dessus, et ça devient la feuille de route du prochain président de la Commission. Et donc les Verts allemands notamment, voient bien l'intérêt de pouvoir peser sur la feuille de route du président de la Commission, et donc aimeraient pouvoir y contribuer. Je crois qu'il y a d'autres Verts, notamment français, qui eux préféraient...
Considérer qu'ils sont politiciens, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
Qui considéraient dans l'opposition. Je vous rappelle...
Considérer que c'est pas des vrais Verts.
Mais moi, ce que je vois, c'est que je comprends pas très bien comment on peut être dans l'opposition quand on met comme priorité stratégique le climat, sur lequel, par ailleurs, les chefs d'État veulent eux-mêmes travailler. Ça me semble un peu contradictoire. Mais les choses vont se faire dans les semaines qui viennent. Et puis, nous, voilà, on est du côté du Conseil des ministres. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Parlement européen, en fait, il a un vrai poids. Depuis 2005 et les débats sur le traité de Lisbonne, etc., le Parlement a gagné un vrai poids. Et il faut se souvenir comment Juncker, par exemple, le fameux plan Juncker, dont on a beaucoup parlé après, c'est pas une idée qu'il avait lui au départ. C'est une idée qui est venue des socialistes européens. Donc, il faut s'attendre à ce que cet agenda stratégique, il soit, et j'espère, renforcé par les parlementaires européens, parce que ça nous permettra, du coup, d'ici aux prochaines élections européennes, d'avoir des vrais résultats. En 2022, la France aura la présidence de l'Union européenne. Et ben, on aimerait qu'à ce moment-là, on puisse montrer à la fois des résultats nationaux, ce sera la fin du quinquennat, mais aussi des résultats européens, et que donc, sur cette base, cet agenda stratégique, on est avancé sur l'Office européen de l'asile, on est avancé sur la Banque européenne du climat, on est avancé sur les sujets sociaux dont je vous ai parlé juste avant.
Karine Bécard.
Votre priorité stratégique pour le climat, dans la grande coalition, le PPE partage ça, ils le mettent aussi haut que vous, ils sont prêts à vous suivre ?
Ben, ce qui est sûr, c'est que on a, nous, au moment du sommet de Sibiu au mois de mai, proposé une feuille de route très ambitieuse sur le climat, notamment pour pouvoir avoir cette voie commune au sommet des Nations Unies en septembre. On a 8 pays, puis 9 pays qui nous ont rejoints. L'Allemagne, aujourd'hui, nous envoie des signaux tout à fait positifs. Et donc, il y a des chefs d'État PPE qui sont engagés dans cette dynamique. Marc Rutte, il a une coalition gouvernementale qui est finalement très marquée par des membres du PPE, et pour autant, qui nous soutient pleinement et qui d'ailleurs est lui-même un aiguillon très utile dans ces négociations. Donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le PPE soit contre le climat. Après, tout est question aussi de mise en place. C'est-à-dire que si on s'engage sur la neutralité carbone, il va falloir qu'on en tire des conséquences sur le budget européen, sur notre politique commerciale, sur la politique agricole. Donc après, il faut que les uns et les autres comprennent bien qu'il y a des... On ne peut pas se limiter aux discours et aux intentions. Il va falloir qu'ensuite, ça soit cohérent.
Françoise Fressoze.
On voit qu'il y a un tas de choses stratégiques sont en négociation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'au prochain Conseil européen, des noms sortent ou qu'il faudra un peu plus de temps pour arriver à redéfinir tous les postes stratégiques ?
Je pense qu'on n'aura pas, là, jeudi ou vendredi, l'intégralité des postes définis. D'abord parce qu'il faut aussi qu'il y ait un aller-retour avec le Parlement européen. C'est le Parlement qui va voter le 16 juillet. Donc, moi, mon intuition, c'est qu'on aura une shortlist, qu'on aura réduit les options, et qu'ensuite, il va y avoir un débat qui va se poursuivre. On avait demandé à Donald Tusk, qui est le président du Conseil européen, de commencer cet échange au nom des chefs d'État avec le Parlement européen pour qu'on puisse se mettre d'accord. Vous savez, l'Europe fonctionne bien quand elle arrive à une forme de consensus. J'espère qu'on pourra continuer à fonctionner comme ça. Et en tout cas, c'est l'ambition du président. C'est de proposer... et ensuite, du coup, réussir à unifier et surtout garder un niveau d'ambition. Trop souvent dans le passé, le consensus européen, en fait, il affaiblissait l'ambition. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'arriver à garder, voyez, des ambitions suffisamment grandes pour que, je vous dis, les citoyens, ils voient des résultats. Le but de tout ça, c'est pas les gens, c'est pas leur drapeau, c'est pas leur nationalité, leur CV. C'est est-ce qu'ils sont capables, dans 5 ans, de dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui a changé, et voilà comment vous, citoyens, à travers toute l'Europe, l'Europe prend une forme concrète dans votre vie quotidienne. C'est ça l'enjeu.
Avant votre portrait, Amélie de Montchalin, question à propos du Brexit qui vous occupe comme ministre des Affaires européennes. Le Royaume-Uni quittera-t-il l'Union européenne le 31 octobre ?
Ce qui est certain, c'est que si le Royaume-Uni veut quitter l'Union européenne et si le Royaume-Uni veut quitter l'Union européenne de manière ordonnée, non mais je répète les choses.
Ordonnée, ça veut dire avec un deal.
Ordonnée, le deal qui est sur la table et la date du 31 octobre sont ce sur quoi nous sommes mis d'accord. Ensuite, je vois qu'il y a beaucoup de débats actuellement. J'étais à Londres lundi et mardi. Il ne faut pas confondre une campagne électorale qui vise une base militante extrêmement polarisée, et puis les débats qu'on aura ensuite au niveau européen. Et sur ça, la ligne est claire. Le 31 octobre, c'est, sauf changement, il faudrait qu'il y ait des changements très profonds pour qu'on reconsidère la date, mais le deal qui est sur la table, Michel Barnier le répète. C'est ce que nous avons négocié de mieux. On l'a pas fait contre les Britanniques. Ce sont des négociateurs britanniques qui, pendant 2 ans, ont travaillé avec des négociateurs européens pour, point par point, de manière assez pragmatique, trouver ce qui était dans l'intérêt commun.
Sauf que tout risque de changer avec probablement l'arrivée de Boris Johnson pour remplacer Theresa May.
Mais c'est un problème politique britannique.
C'est mauvaise nouvelle pour l'Europe et pour la France.
Il dit, je ne veux pas rembourser, ou en tout cas, je ne veux pas redonner les 35 milliards d'euros que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni s'étaient engagés à verser à l'Union européenne.
Ça s'appelle un défaut.
Mais qu'est-ce que vous dites?
Qu'est-ce que vous voulez faire contre s'il suit les conseils de Donald Trump?
Je peux vous dire que c'est pas à nous de savoir ce qu'est un défaut sur les marchés financiers, ça veut dire ensuite une perte de crédibilité, ça aura des conséquences qui iront bien au-delà, si c'est ce qu'il poursuit, de l'Union européenne. Cette histoire des milliards, c'est pas, vous savez, la facture de sortie. C'est des engagements que le Royaume-Uni a pris vis-à-vis de l'Union. Et donc on dit, comme dans tout contrat international, comme dans tout traité international, les États sont engagés. Et ne pas payer ses obligations internationales, ça s'appelle un défaut. C'est pour ça qu'on a des agences de notation et ensuite les marchés financiers sanctionnent. Ça aura des conséquences très graves. À Londres, lundi et mardi, je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de monde qui voit bien que c'est un propos d'estrade.
Ils pensaient que c'est du bluff.
Propos d'estrade, sauf que ça figure dans un accord qui a été rejeté par le Parlement britannique. Cet engagement.
L'engagement, oui, mais c'est bien pour ça que je vous dis. Si le Royaume-Uni veut sortir de manière ordonnée, et moi, ce qui compte pour moi, c'est que moi, j'ai grandi à Calais une partie de mon enfance. Je suis certaine d'une chose, c'est que le Brexit, les décisions qui se prendront à Londres ou à Bruxelles, n'augmenteront pas le nombre de kilomètres qu'il y a entre Calais et Douvres. Les falaises de Douvres et de Folkestone, elles seront toujours visibles de France.
Ça resterait la perfide Albion.
Donc, moi, mon sujet.
C'est ce qu'on voit de Calais. Hein.
Bon, non, on voit pas le perfide Albion. On voit un pays qui fait transiter des centaines de tonnes de matériel, de biens, de personnes. C'est un pays avec qui on aura une relation future qui sera évidemment forte. Économiquement, politiquement, on a des accords de défense, on a des accords de recherche, Donc, moi, mon enjeu, c'est que on est sur un sujet britannique, de politique britannique. L'Union et le Royaume-Uni ont travaillé pour avoir un accord, pour que ça se passe bien. Si ensuite il y a des décideurs britanniques qui veulent faire autrement, la conséquence, elle est d'abord à regarder le peuple britannique. Vous savez, la société, elle est extrêmement divisée. Donc la première des responsabilités des leaders britanniques aujourd'hui, c'est d'être profondément d'abord dans leur pays. Et nous, Européens, on a mis sur la table un accord, et vous voyez bien que on ne peut pas dire autre chose que ça. Ensuite, c'est la question d'un peuple qui a pris une décision politique et qui doit ou l'arrêter ou poursuivre.
Mais c'est
leur décision.
Justement, Françoise, quel est votre regard sur ce qui se passe en Grande-Bretagne aujourd'hui? Parce qu'au fond, il y a une radicalisation sur quelque chose qui met en jeu quand même l'avenir de l'Union européenne, l'avenir de nos relations avec la Grande-Bretagne. Vous dites que c'est un gâchis immense. Comment vous réagissez?
Moi, ça m'évoque plusieurs choses. D'abord, on a une immense obligation de résultat au niveau de l'Union européenne. Parce que ce qui a nourri le Brexit, c'est au fond ce sentiment que l'Union n'apportait pas de résultat aux citoyens britanniques. Donc déjà, ça c'est la première chose que ça m'inspire, c'est l'obligation de casser à la racine, j'allais dire, ce qui a nourri le vote Brexit au Royaume-Uni. La deuxième chose que ça m'inspire, c'est qu'il faut respecter les démocraties nationales. La pire des choses, ce serait, vous voyez, moi ou quiconque, depuis Bruxelles ou depuis un autre pays, décide ce que doit être le Brexit. C'est comme en 2005 en France, si un référendum, ensuite, les personnes qui ont voté ont l'impression d'être trahies dans leur vote, on le voit en France. Bien sûr que le traité de Lisbonne, moi j'ai voté pour. J'ai même travaillé à un moment donné à la Commission européenne alors qu'il s'établissait. Donc heureusement que pour l'Europe, il y a eu ça. Mais la façon dont ça a été géré démocratiquement, c'est délétère même aujourd'hui. Les Gilets jaunes, moi j'étais dans plein de grands débats, ils continuent à en parler 15 ans après. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ce que cette question britannique soit gérée au niveau britannique. Et la dernière chose que ça m'inspire, c'est ce que je disais à l'instant. Le Royaume-Uni, après le Brexit, restera un pays avec qui nous aurons une relation. Et la relation future, il faut qu'on soit capable de la construire de manière honnête, de manière sincère. Il y a énormément de sujets. La pêche, la défense, la sécurité, le renseignement, les accords de recherche, les étudiants... Tous, même les services financiers. Il y a énormément de sujets sur lesquels il faudra qu'on continue de trouver des nouvelles formes de relations. Et donc moi, je veux pas être la ministre du Brexit. J'aimerais bien être plutôt celle qui, dans les mois qui viennent, arrive avec les autres à trouver une voie qui nous permette de pouvoir construire un futur qui soit un futur de relations équilibrées et dynamiques.
La secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, est notre invitée ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Le portrait, signé Karine Bécard.
Amélie de Montchalin, votre entrée au gouvernement a légèrement surpris, il y a de cela tout juste 2 mois et demi. Enfin surpris, non, pas exactement, puisque votre nom a toujours circulé avant chaque remaniement, mais personne ne s'attendait vraiment à ce qu'il vous soit confié les affaires européennes, parce qu'a priori, vous aviez plutôt le parfait profil pour filer à Bercy. En tant qu'économiste d'abord, et puis surtout à l'Assemblée, vous, la nouvelle députée, avez tout de suite fait du budget votre spécialité. Et c'est vrai qu'au milieu de tous ces novices de la vie politique, vous, Amélie de Montchalin, avez su impressionner même l'exécutif. Si, si, par votre sens de la répartie, par votre connaissance des dossiers budgétaires et financiers, et par votre assurance à 32 ans seulement. Pas étonnant du coup que vous soyez devenue la whip de la commission des finances, le fouet, si vous préférez en anglais, chargée d'encadrer, voire de recadrer vos collègues de la majorité.
Whipped cream, qui est un autre mot anglais, ça veut dire crème fouettée. Et crème fouettée, je trouve que c'est une bien plus belle image de ce que j'essaye de faire au quotidien. C'est-à-dire créer de l'émulsion, mettre de l'air, ouvrir les débats, faire en sorte que chacun y trouve sa place.
Ah oui, j'allais oublier. Vous avez aussi un certain talent pour communiquer. Ce qui est important, vous le savez, pour faire de la politique. Et la politique, Amélie de Montchalin, vous a toujours tenté. Vous êtes encore étudiante à HEC quand vous devenez l'assistante de Valérie Pécresse.
Stagiaire,
si vous préférez. À l'époque, vous avez un petit peu plus de 20 ans et vous ne dépassez pas les 30 quand vous vous mettez à envoyer des notes à Alain Juppé. C'est sa défaite à la primaire en 2016 qui vous fait dévier vers Emmanuel Macron, rapidement connecté à sa Startup Nation, mais initialement attiré par son combat européen, ce qu'on avait oublié quand vous avez été nommé le 31 mars dernier.
Mon métier ou ma nouvelle fonction, ça va être de mettre toute mon énergie à ce que dossier par dossier, eh bien, on avance sur le terrain avec les partenaires européens et qu'on arrive à concrètement montrer que l'Europe apporte des solutions aux Français.
Voilà votre passation de pouvoir dans ce qui était encore à ce moment-là le bureau de Nathalie Loiseau. Depuis, Amélie de Montchalin, vous essayez d'exister, d'imprimer. Vous avez récemment, on en a parlé à l'instant, publiquement convoqué tous nos eurodéputés, mais cela n'a pas très bien marché. Vous espérez, comme avant, jouer collectivement, mais tout le monde n'est pas aussi docile qu'un député de la majorité.
Réaction, Amélie de Montchalin.
Moi, je crois beaucoup au collectif. Je crois qu'il faut dépersonnaliser beaucoup d'enjeux. Il faut toujours revenir à ce qu'on essaie de faire. Et c'est pour ça aussi que, au-delà de l'esprit européen, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans En Marche au départ, c'était l'idée qu'on allait d'abord parler de ce qu'on voulait faire et un peu moins de qui on était. Et donc, je crois que les enjeux européens conviennent parfaitement à cette logique parce qu'on voit bien que quand je me rends en Finlande...
Bon, enfin, c'est un homme qui a conquis le pouvoir, en l'occurrence. Et quand vous étiez en marche, les idées politiques, elles s'incarnent dans des femmes, des hommes.
Mais je ne crois pas être désincarnée. Si je ne suis pas désincarnée devant vous, mais je crois que la politique s'honore à mettre toujours en avant ce pourquoi on essaie d'en faire et surtout ce qu'on cherche à avoir comme résultat. Je vis cette mission avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup de persévérance, c'est parce que je pense qu'on peut essayer à la fin de se changer la vie quotidienne.
Françoise Fressoz.
Alors on va venir peut-être en France en restant un peu lié à l'Europe. Il y a un avertissement de la Commission européenne sur les risques de dérapage du budget français et on voit qu'au fond, Édouard Philippe est sorti du grand débat avec quand même 17 milliards de dépenses ou d'allègements fiscaux en plus qu'il faut financer. Alors, est-ce que le deal avec la Commission européenne, c'est de dire au fond, on fait les réformes et laissez-nous tranquilles sur le déficit ou vous pensez qu'il faut trouver des économies budgétaires ?
Amélie de Montchalin.
Moi, je suis certaine qu'il faut qu'on trouve des économies budgétaires et qu'on dise à la Commission européenne qu'on fait des réformes et que donc le rythme de réduction du déficit ne doit pas être brutal. On sera à 2,2% de déficit hors mesures exceptionnelles à la fin de l'année 2019. C'est moins que ce qu'on a toujours eu depuis plus de 12 ans maintenant. On a pour la première fois, depuis que je suis née ou même peut-être même avant, réduit la dépense publique en volume en 2018. Ça n'était jamais arrivé.
Mais le niveau de la dette est quand même...
Le niveau de la dette, il est aussi... vous savez, on a sincérisé. C'est un mot qu'on utilise parfois. La dette publique...
C'est pas ce que ça veut dire. C'est les technocrates.
Non, ça veut dire qu'on a, remis dans la dette publique tout ce qu'il y avait dans la dette publique, mais qu'on voulait pas y mettre. Comme la dette de la SNCF. Comme aussi dans le budget de l'État. Il y a, en 2017, quand on a été élu, vous savez, il y a eu cet avertissement de la Cour des comptes en nous disant... il y a 8-10 milliards qui traînent, qui se devraient dans les comptes, qui ne sont pas.
Enfin, le fait est qu'aujourd'hui, dès qu'on produit quelque chose, c'est absorbé en fait par la dette.
c'est pas absorbé.
On est à peu près à 100%
aujourd'hui. Non, c'est,
notre dette est à hauteur de 100%
oui,
du PIB.
C'est un stock, c'est pas absorbé. Mais bon, ce qui est certain, c'est que effectivement, la France doit continuer à faire des efforts.
Je trouve que
la
ligne de tout le monde dit, il faut faire des économies, mais quand on demande concrètement où elles sont, on ne les trouve jamais.
Bah, je peux vous dire qu'on les trouve, puisque l'année dernière, je vous dis, la dépense publique a baissé pour la première fois depuis 35 ans le budget a été fait. Pour ce qui est la suite, la ligne d'Edouard Philippe, elle est très claire. Si on fait des réformes, si effectivement on doit s'occuper plus du pouvoir d'achat des classes moyennes, si on s'occupe de réformer la prime d'activité, si on baisse les impôts de 5 milliards pour les premières tranches d'impôts, ça ne peut pas être financé par nos enfants et nos petits-enfants. Oui. Donc, il y a des arbitrages qui sont pris en ce moment, des arbitrages qui seront courageux, qui mettront en place des priorités.
D'accord, mais pour l'instant, Nathalie pourquoi Saint-Cric. Edouard Philippe a été très précis concernant un certain nombre de dépenses et assez flou concernant un certain nombre d'économies. On a vaguement parlé de niches, on n'est pas beaucoup plus avancé. Est-ce que vous pensez que c'est parce que, pour l'instant, on se dit qu'on risque de laisser filer les choses?
Moi, je peux vous dire que depuis l'intérieur du gouvernement...
Ça, c'est pas clair. Hein,
depuis l'intérieur, il se passe ce qui se passe tous les ans entre le mois de juin et le mois de juillet. C'est-à-dire qu'il y a des discussions très pointues entre Bercy, Matignon et chacun des ministères pour définir quelle est la feuille de route budgétaire de 2020. Et il y aura des lettres de cadrage et il y aura, comme tous les ans, au mois de septembre, une présentation budgétaire. Je peux vous dire que les parlementaires y sont attachés. L'esprit dans lequel on travaille est attaché. On dit que la dette écologique et la dette financière sont des sujets qu'il faut qu'on arrête de reporter, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, on en paye le prix. Pourquoi les Gilets jaunes ont exprimé aussi fortement une exaspération fiscale? Mais parce que depuis 15 ans, on a réglé des problèmes sur leur dos. Et qu'aujourd'hui, quand on fait la somme de tout ce qu'on a essayé de régler sur leur dos, ils disent « ça suffit ». Et ils ont bien raison de dire « ça suffit ». Et nous, on dit aussi que ça suffit.
Mais c'est aussi comme ça que vous prenez les choses. C'est-à-dire que vous annoncez une baisse d'impôts de 27 milliards d'euros sur le quinquennat, mais vous ne dites pas ni comment vous les financez, ni quelles économies vous faites.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en train d'essayer d'être faites et qui vont être faites.
Vous faites exactement comme vos prédécesseurs.
Non, parce que là où c'est très différent, c'est que ça fait donc maintenant trois budgets sur lesquels nous sommes en dessous du 3% de déficit. On est, je vous dis, le premier gouvernement depuis 35 ans à avoir réduit la dépense publique en volume. Et on l'a fait de manière intéressante. On l'a fait sans coup de rabot sur les collectivités locales, en faisant des contractualisations uniquement avec les plus grandes collectivités. On l'a fait tout en continuant à investir dans l'éducation, dans la défense. Donc on est en train de faire des choix. Le travail est fait de manière sérieuse et je pense ça assez d'ailleurs sain que le Premier ministre, plutôt que de faire au milieu de sa politique générale, vous voyez, la présentation du budget ligne à ligne, parce que c'est assez technique, il faut faire des choix, il faut faire des réformes.
C'est pas ça qu'on dit.
Mais moi, j'ai pas entendu, j'étais au Sénat et j'ai entendu Édouard Philippe parler jeudi matin de son orientation budgétaire, j'ai pas entendu qu'il allait laisser filer ni de déficit, ni qu'on allait
rien. C'est parce qu'on dit comment.
On dit, voilà. Et donc le comment, et ben, c'est le travail qui est fait aujourd'hui avec minutie, par Gérald Darmanin, avec Matignon et avec chacun des ministères pour définir la feuille de route 2020.
Mais ça fait trois mois que vous dites niche fiscale, niche fiscale, niche fiscale. Niche fiscale, peut-être commencer à savoir quelles sont celles qu'on pourrait attaquer.
Si vous vous en souvenez, Karim Bécart, je crois que vous en souvenez, avec Joël Giraud, lors du dernier budget,
exactement,
on avait commencé à faire un travail très fastidieux.
Vous aviez proposé, vous, certaines
suppressions. On a réduit une douzaine ou une quinzaine de niches fiscales qui étaient anciennes, qui parfois plus personne ne suivait, plus personne n'évaluait, plus personne ne pouvait même vous dire qui.
Donc quelles sont celles sur lesquelles on peut encore jouer?
Eh bien donc, je crois que le Premier ministre a fixé un certain nombre d'objectifs. C'est celles qui sont anti-écologiques. C'est celles qui profitent uniquement à quelques secteurs, sans très bien comprendre pourquoi.
Très grandes entreprises, par
exemple. Et puis, il y a aussi la revue de niches fiscales qui ont été adaptées au moment où elles ont été créées, mais qui, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, n'ont plus d'objet.
Ça va suffire, tout ça?
Ben, ça, je peux vous dire...
C'est du grattage niche par niche.
Oui, mais niche par niche, comme vous en avez plus de 200, 300, vous avez quand même de quoi travailler. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la cohérence d'ensemble n'est plus lisible pour les Français. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je reviens aux Gilets jaunes, qui critiquaient beaucoup, en disant c'est tellement compliqué qu'on a quand même l'impression qu'il y a ceux qui savent et qui en profitent, et puis il y a ceux qui ne savent pas et qui ont l'impression de se faire avoir.
Heureusement qu'ils ont été là, hein.
Mais vous savez, sur ces sujets-là, moi j'ai toujours été, je ne sais pas si c'est démagogue ou populiste ou juste déterminé, il y a beaucoup de sujets sur lesquels les Français, quand ils viennent dans nos permanences de parlementaires, quand vous les rencontrez sur le terrain, ils vous disent des choses très justes. La culture de l'évaluation, par exemple.
Enfin, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas des gens qui allaient dans les permanences parlementaires. Enfin, c'est pas ce qu'on retient de ce mouvement, Amélie de Montchalin.
Non, mais c'est des gens. Enfin, ils exprimaient des choses que de bon sens, que vous disent beaucoup de Français, beaucoup de citoyens informés et qui voient bien qu'il y a des choses qui fonctionnent, qui tournent pas rond. Quand le débat sur la fiscalité, c'est un débat aussi de lisibilité. Le sentiment d'injustice, il se nourrit de la complexité parce qu'on a l'impression qu'il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Donc tout ça, c'est des bons aiguillons. Et moi, je peux vous dire que sur ce sujet-là, en tout cas, le groupe parlementaire et mes collègues de la commission des finances, enfin mes anciens collègues de la commission des finances, pour continuer d'échanger avec eux, sont très mobilisés.
Françoise Fressoz.
Mais quand vous êtes dans les instances européennes et qu'on vous dit qu'au fond, la France est la des plus mauvais élèves en termes de déficit, est-ce que vous ne dites pas, mais comment est-ce que notre voix peut compter en Europe si on reste dans cette situation?
Eh bien, les collègues européens, ce qu'ils regardent, c'est qu'ils ont vu qu'on a fait une réforme de la formation professionnelle, qu'on a changé nos contrats aidés, qu'on a contractualisé avec nos collectivités locales, qu'on va faire une réforme de l'assurance chômage et qu'on va aussi faire une réforme pour créer de la justice et de la simplicité d'un système de retraite. Tout ça, ils le voient. Et ils savent très bien que c'est difficile, et ils savent très bien que pendant des années, la France a globalement pris son temps, voire surtout pris son temps pour ne pas aborder ces sujets-là. Vous savez, il y a à peu près 10 ans, dans les rapports de la Commission européenne, il était déjà écrit qu'il fallait réformer l'assurance chômage, il était déjà écrit qu'il fallait simplifier le système de retraite. Eh bien, c'est des choses que le Premier ministre a annoncées, qui vont être faites là dans les prochains mois et les prochaines semaines, et je pense que c'est clair.
Merci pour la transition, Amélie de Montchalin, justement, puisque nous allons en venir maintenant au discours de politique générale, à cet acte 2, comme dit le slogan qu'a ouvert le Premier ministre mercredi à l'Assemblée. Nathalie Saint-Cricq.
Il apparaîtrait, alors c'est pas exactement ce que voulait Ali, mais il apparaîtrait quand même qu'il y ait des états d'âme dans la majorité, dans votre majorité, après avoir catapulté la droite, écrabouillé la gauche, en bref, fait disparaître tout le monde. En gros, vous avez installé un match entre vous, enfin pas vous personnellement, et le Rassemblement national. Est-ce que c'était une super bonne idée? Est-ce que finalement, vous n'avez pas joué avec le feu? C'est ce que certains députés disent en disant on a un peu fait les apprentis sorciers. Ça peut aider Emmanuel Macron en 2022, mais ça peut aussi être extrêmement dangereux.
Moi, je suis toujours assez surprise par cette idée que si la droite et la gauche font 15% aux élections européennes, ce serait de notre faute. Moi, j'observe que les primaires à droite et à gauche ont eu une conséquence massive. C'est qu'elles ont envoyé en retraite anticipée des gens de bonne volonté qui avaient des idées, qui voulaient porter des sujets, mais qui ont été... Mais je pense aussi à gauche. Le système des primaires, c'est un système qu'on l'a vu en 2017, à mon avis, a été délétère, en fait, pour ces partis de gouvernement. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il reste, depuis quand même maintenant 2 ans, totalement englué dans des questions de personnes. Moi, je pense, et pour l'avoir vécu à l'Assemblée, que c'est extrêmement important que les oppositions puissent exister. D'ailleurs, quand les oppositions présentaient des propositions de loi, j'étais une de celles qui, au groupe parlementaire, considérait que c'était important qu'on puisse en débattre.
Donc, en gros, vous dites la droite classique, elle est finalement condamnée tôt ou tard à basculer chez La République en Marche.
Non, ce que je dis, c'est que je pense qu'il est urgent que ces partis, s'ils veulent exister, et je pense que c'est 5 dans une démocratie et du pluralisme, qu'ils reviennent à parler aux Français de fond, de solutions, de contenu.
C'est de leur faute, en fait, il n'y a aucun calcul politique. Mais de votre part,
vous êtes là pour les faire progresser.
Moi, je peux voir dans ma circonscription ce qui s'est passé donc en Essonne. Il y a eu la droite de gouvernement a perdu énormément de poids, énormément de voix, et elle s'est abîmée dans mon département comme dans les autres, dans la lutte, le départ Copé-Fillon, après dans les histoires de primaire, ensuite maintenant dans savoir est-ce qu'on était conservateur avec Bellamy, est-ce qu'on était derrière l'extrême droite avec Wauquiez, est-ce qu'on était centriste avec, vous voyez, les gens comme Pécresse et les autres. Donc ce que j'observe, c'est que à droite comme à gauche, je pense que les primaires ont eu un effet, je vous dis, très 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 violent sur ces partis et ont mis en fait de côté des gens qui étaient faits pour travailler ensemble. Mais quand vous demandez aux gens de s'écharper alors qu'ils sont d'accord, ben, on voit ce que ça produit. Donc moi je pense qu'il faut pas du tout s'enfermer dans un débat ou un match. Ce match il existe, on l'a vu en 2017, il existe aussi aujourd'hui. En revanche, je pense qu'il est sain pour une démocratie, mais c'est un appel, je veux dire, de bon sens, ce que je vais dire n'est pas très révolutionnaire. Mmh. Que les partis de gouvernement, eh bien, proposent des réformes, des idées qui soient celles de partis de gouvernement et qu'ils arrêtent de parler des gens. Parce que je pense que les Français en ont ras-le-bol. Et c'est ça qu'ils nous disent. Et donc, l'esprit de rassemblement dans lequel on travaille, les 72 maires qui disent on est prêt à travailler avec vous, ils n'ont pas dit on va prendre notre carte en marche. Ils ont juste dit,
mais
on dit...
S'ils ne le font pas, ce ne seront pas des ennemis du président.
Mais moi, j'ai 2 maires de ma circonscription historique qui sont dans cette liste. Je ne leur j'aurais jamais demandé à faire autre chose que d'être ce qu'ils sont, de travailler dans l'intérêt du pays.
Il n'y a pas de volonté hégémonique de la part de La République En Marche, du genre, où vous êtes avec nous, vous êtes contre
non,
nous.
Non, il y a la volonté de clarification. Il y a des gens qui disent, on est des opposants, et bien c'est bien de le savoir. Il y a des gens qui disent, on est prêt à travailler avec vous, et bien c'est bien de le savoir.
Vous les prenez à partir de quoi, les gens qui veulent bien travailler avec vous? Il faut qu'ils aient pas leur carte républicain. Il faut qu'ils disent, c'est quoi le moment à partir
de la ligne qu'on avait dit, c'est pendant les élections européennes, à minima, pas soutenir au premier rang des candidats qui manifestement ne sont pas des amis du président puisqu'ils considéraient les uns les autres que tout ce que nous faisions était mal du début à la fin. Mais il y a des gens qui resteront, des gens qui pourront dire « je suis de droite » et qui nous soutiendront. Il y a des gens qui pourront dire « je suis de gauche » et qui nous soutiendront.
Mais vous trouvez pas que vous avez une politique de recrutement politique en ce moment un peu agressif quand même à La République En Marche dans,
moi,
dans le vocabulaire qui est utilisé?
Je ne recrute personne, j'appelle à la clarté.
François
et je pense que les Français sont contents d'avoir de la clarté.
Quand vous regardez les structurations de vote, c'est-à-dire qu'on a la France qui va bien derrière Macron et la France qui va mal derrière Marine Le Pen, est-ce que vous jugez pas la situation, cette structuration, cette lutte des classes très dangereuse ?
C'est pour ça qu'on a aucune envie de d'arrêter de réformer des choses qui parlent à tout le monde. Valoriser le travail, apporter à chacun l'éducation pour que ses enfants aient dans la vie toutes les options devant lui et pas celles que lui réserve la mauvaise adresse ou le mauvais nom de famille, comme ça a été trop souvent le cas. Et ça, c'est des choses, lutter contre l'assignation à résidence, faire ce qu'on est en train de faire sur le dédoublement des classes, ça me paraît des choses qui sont, voyez, ni de droite ni de gauche, mais qui permettent justement d'arrêter de se dire qu'il y aurait une France pour qui on travaille et une France qu'on abandonne. Tout le projet...
Mais la rupture avec les classes populaires, elle est prononcée, elle est... consommer.
Et pour moi, elle n'est pas définitive et c'est pour moi un grand combat. Quand Gérald Darmanin dit très bien, il faut qu'on puisse...
On ne peut pas gagner une présidentielle sans le peuple.
Eh bien, je suis... D'abord, c'est réaliste, c'est pragmatique. Et deuxièmement, c'est pour ça que je vous dis qu'on travaille aussi fortement sur des enjeux comme l'éducation, comme la formation professionnelle, comme la valorisation du travail, comme la réforme de la prime d'activité, comme le revenu universel d'activité pour sortir de ce chômage de masse qui a créé de la précarité et qui a donné à certains le sentiment qu'ils étaient à côté de la République. Notre combat, c'est celui d'une République unie où chacun a ses chances. Et donc, lutter contre l'assignation résidence et valoriser le travail, je pense notamment aussi la promesse éducative. Dans les quartiers populaires, le fait que les enfants aient toutes les chances et que si justement ils viennent de quartiers où c'est plus difficile, on leur redonne la chance de pouvoir entrer pleinement dans la société, former et avec tout ce qu'il faut, tout le bagage nécessaire pour qu'ils puissent faire leur choix dans la vie, ça me paraît une politique essentielle et qu'on va mener avec beaucoup, beaucoup
d'énergie. Mais alors pourquoi est-ce qu'au bout de 2 ans de quinquennat, on en est arrivé à cette situation où La République En Marche est le parti des bourgeois, des élites, des centres-villes ?
Mais parce qu'il faut qu'on continue à travailler, parce qu'il y a des réformes qui prennent du temps, parce que quand on fait la réforme de l'apprentissage, les inscriptions augmentent de 40%, et ben il va falloir du temps pour que ces apprentis entrent sur le marché du travail, que dans leur famille, dans leur entourage, on voit la différence. Donc c'est pour ça que le président a toujours dit, moi je vais être jugé sur des résultats, je vais être jugé dans 5 ans. On a encore 3 ans devant nous, et donc on ne va pas relâcher l'effort.
Est-ce que c'est pour ça que Emmanuel Macron dit qu'il faut plus d'humanité, promet plus d'humanité, est-ce que c'est pour ça que Édouard Philippe, lors de son discours de politique générale, dit qu'il ne faut pas être arrogant?
Oui,
ça semble bizarre de dire faut pas être arrogant.
Et derrière ces mots-là, il y a surtout l'enjeu de la proximité.
Ça veut dire que vous l'avez été vraiment?
Mais il faut que nos réformes, on a passé beaucoup de temps à l'Assemblée, à les façonner, à les construire, à mettre les amendements, à mettre les mesures techniques. Maintenant, tout l'enjeu, c'est que tout ça se déploie sur le terrain et que ça devienne concret. Et que,
Style, est-ce qu'il y a un mea culpa sur votre style, pas le vôtre personnellement, mais sur la façon dont vous vous êtes exprimé ou dont vous avez fonctionné depuis 2 ans?
Moi, je pense qu'il y a eu une volonté parfois d'aller très vite et que cette volonté d'aller très vite a été vécue par certains comme une volonté de passer en force et peut-être de ne pas les associer assez. Et c'est pour ça qu'on mise tout aujourd'hui beaucoup plus sur la concertation. C'est pour ça qu'on fait des permanences ministérielles. Plutôt que d'aller faire des visites ministérielles au monde, vous savez, la France merveilleuse qui n'existe qu'au moment de la visite ministérielle, plutôt qu'on aille, vous voyez, moi j'ai allé s'asseoir dans des endroits, échanger. Quand le président demande au ministre d'aller avec leur directeur d'administration centrale sur le terrain, recevoir thème par thème les Français qui sont confrontés à des aberrations administratives, eh bien je pense qu'on s'aidera beaucoup plus à réformer le pays par le bas. Moi, c'est, vous savez, en tant que députée, ça a été l'ambition de proximité, de partir du terrain, de s'assurer que ce qu'on vote s'applique, ça a été ce qui m'a motivée, a été mon moteur pendant 2 ans. Donc je suis très heureuse qu'on poursuive au niveau gouvernemental aussi dans cet esprit.
Est-ce que ce n'est pas la même erreur que vous êtes en train de faire finalement au Parlement européen? Vouloir aller vite, vouloir vous imposer. Je parlais tout à l'heure de vous comporter comme des gens en terrain conquis. Est-ce que finalement tout ça ne vous fait pas passer pour des gens hautement arrogants alors que c'est pas ce que vous défendez là maintenant?
Le Parlement européen, vous savez, on est 23 Français Renaissance sur 750.
21 pour l'instant.
Oui, 21 ou 23, mais je veux dire, on est une vingtaine. Les Français, c'est donc, même si on les mettait tous ensemble...
Non, mais est-ce que c'est pas le défaut du macroniste, de vouloir toujours aller très vite, de vouloir s'imposer, de vouloir...
Il y a s'imposer. Je pense qu'il y a des moments où c'est sain que, notamment au niveau européen, parfois le président hausse un peu le ton et dise, les amis, soit on continue comme avant et on tourne en rond, soit, entre guillemets, on se réveille et on avance. Donc ça, je pense que c'est ça.
Donc pas remise en cause du style, finalement.
Ensuite, sur la vitesse, vous savez, le Parlement européen, là, pour le coup, ça va être un peu l'inverse, c'est qu'il ne va pas nous attendre. Et les débats, ils vont reprendre très, très vite. Donc, on fera le bilan, vous voyez, quand on aura repris les travaux. Je pense que ce sentiment d'urgence et ce sentiment d'aller vite, il est aussi lié au fait qu'on voit bien que dans notre pays, il y a trop de choses sur lesquelles on ne peut plus attendre. C'est pas un hasard que le Premier ministre dise qu'il y a des urgences. Il y a une urgence sociale, il y a une urgence climatique, il y a une urgence de lien, de proximité. Ce sont des urgences. Donc ensuite, vous voyez, c'est compliqué de dire que c'est des urgences, puis ensuite de prendre notre temps. Donc c'est une tension.
Et puis il y a des sujets sur lesquels vous n'allez pas si vite que ça.
La PMA, par exemple, finalement, vous avez...
Nathalie Sacré-Cœur.
Juste une question à propos de la PMA qui, finalement, va être passé en Conseil des ministres fin juillet pour une discussion en septembre. Est-ce que vous pensez que ça doit s'accompagner d'un droit aux origines ? C'est-à-dire qu'en gros, le projet PMA seul n'est pas suffisant puisqu'il y a un certain nombre de parlementaires qui ont travaillé sur la nécessité de donner un accès aux origines pour les enfants nés
PMA. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va être présenté fin juillet. C'est pas juste la PMA. C'est une grande révision de bioéthique qui inclut effectivement la question de l'accès aux origines, qui inclut des questions de filiation.
Quelle est la philosophie de cet accès aux origines? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce sur quoi vous travaillez?
Et ben alors, donc, je crois que Madame Belloubet a transmis au Conseil d'État avec Agnès Buzyn et Frédéric Vidal plusieurs options. Les choses ne sont pas aujourd'hui tranchées.
Est-ce qu'il y a un principe philosophique qui est que tout enfant qui naît doit pouvoir, a priori, remonter... Je vous demande pas la méthode classique, parce qu'il y a plein de choses qui sont sur la table, effectivement, mais est-ce qu'il y a un droit d'origine qui existe?
La question laquelle je me suis posée, c'est que entre le moment où le donneur fait un don et le moment où l'enfant arrive à la majorité et pourrait avoir accès ou demander un accès aux origines, il se passe donc techniquement 18 ans.
Au minimum.
Et donc, au minimum. Et donc, toute la question, c'est comment on organise un système où cet accès aux origines, à mon avis, il faut qu'il soit possible, mais il faut aussi que celui qui ait fait un don, à mon avis, mais c'est un avis là pour le coup personnel, parce que c'est un débat, je pense que c'est intéressant de réfléchir à la personne qui a fait un don, 18 ans, 20 ans, 30 ans après, est-ce qu'elle a envie, est-ce qu'elle est disposée, est-ce qu'elle a la possibilité même humaine et émotionnelle de rencontrer ou d'avoir un échange avec un enfant qui est né de ce don. C'est ça le débat. Et moi, ce que je trouve intéressant justement, c'est que ce qui est présenté fin juillet, c'est pas juste la PMA. C'est beaucoup d'autres questions d'éthique, de bioéthique, qui nous parlent de la science, des progrès de la science, des évolutions sociétales et sociales. Et donc, ce qui, moi, me plaît dans ce texte, c'est que le travail des trois ministres a été un travail très précis et je pense que elle travaille pour qu'on puisse avoir un débat serein, un débat sérieux.
Est-ce que vous y croyez?
Oui, parce que je pense que sur ces questions-là, si on arrive à bien montrer que tout est question d'équilibre, c'est pas oui ou non, blanc ou noir, c'est une question de quel est le modèle social, quel est le modèle, vous voyez, qu'on construit ensemble, je pense qu'on peut faire avoir un débat intéressant. Et un débat, justement, où on parle de choses profondes plutôt que de parler de symboles.
Françoise Fressoz.
Mais quand vous voyez la capacité de déchirement de la société française, on a vu les gilets jaunes, mais on a vu aussi tout ce qui avait été autour du mariage pour tous. Est-ce que vous dites, est-ce qu'on n'ouvre pas la boîte de Pandore et qu'on arrive à un mois de septembre qui va être, au fond, extrêmement difficile?
C'est pour ça que le président a demandé, entre sa promesse, vous voyez, prise pendant la campagne, et maintenant, à ce qu'il y ait beaucoup d'étapes de concertation, beaucoup d'étapes de consultation, qu'il y ait beaucoup d'idées qui vont probablement être dans ce projet de loi, probablement qu'on n'aurait pas présenté pareil si on l'avait fait, vous voyez, le lendemain de l'élection. Bien sûr qu'il y a une capacité à se déchirer sur ces sujets, parce que c'est des sujets profonds, intimes, qui parlent de choses difficiles ou heureuses, mais en tout cas qui parlent de choses qui nous concernent tous dans notre plus proche intimité. Maintenant, je pense que le travail qui a été fait, justement, par, vous voyez, une communauté scientifique, juridique et médicale, ensemble, le fait qu'il y ait ces trois ministres-là, c'est pas un symbole. C'est aussi qu'on a fait travailler ces communautés-là ensemble. Je pense, et en tout cas, je crois qu'on y travaillera tous, pour que ça soit d'abord un débat, vous voyez, de fond.
Quand vous voyez l'état de la droite, c'est-à-dire leur impression d'être un peu pillée par La République En Marche et d'être vraiment tourneboulée dans leur existence, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être aussi un terreau de réaction et au fond qu'une partie de la droite va se mobiliser contre ce projet?
Je ne sais pas si la droite va se mobiliser. J'entends aussi des gens de droite qui disent qu'aujourd'hui, il faut trouver le bon équilibre, mais qu'il ne faut pas s'opposer frontalement à ce qui est un projet et une idée qui a une majorité aujourd'hui de soutien.
Dans l'opinion.
Dans l'opinion.
Depuis peu.
70%.
Et donc, probablement qu'il y a des gens qui vont se mobiliser, ça je suis certaine. Est-ce qu'ils vont se mobiliser sur ce qu'il y aura dans le texte? Peut-être pas. Ça peut aussi arriver.
Ça vous échapperait, du coup.
Qui fasse d'un symbole des choses qui ne sont pas ce qui est écrit dans le texte. Donc, je vous dis, c'est pour ça qu'on va être, à mon avis, tous collectivement très vigilants pour bien expliquer ce qui est dans le texte, ce qui n'est pas dans le texte, et bien avoir un débat, je vous dis, en profondeur et précis, plutôt qu'un débat de symbole. Vous savez qu'en général, les débats de symboles, à mes yeux, sont jamais ceux qui aident le pays et ils n'aident personne en général.
Karine Bécard.
Mais vous, personnellement, vous étiez d'accord avec l'idée que ça devait faire partie des dossiers prioritaires de l'acte 2 du quinquennat, cette révision de la loi bioéthique et qui donc inclut la PMA pour toutes les femmes?
Moi, ce que je pense, c'est que c'est un sujet sur lequel les choses sont prêtes. La majorité des députés était tout à fait prêt à avoir ce temps avant le budget. il y a une contrepartie de tout ça, c'est que du coup le débat parlementaire va être plus contraint dans le temps. Donc si certains rêvaient d'un débat, vous voyez, qui dure et qui dure, ça va être possible. Donc c'est aussi un arbitrage. Moi je pense que c'est bien, d'une certaine manière aussi qu'on...
C'est pas ma question, bien ou mal, c'est est-ce que ça devait faire partie des dossiers prioritaires selon vous?
Oui, mais c'est bien qu'on solde aussi le sujet, parce qu'on a l'impression sinon qu'on est contre alors que les choses sont prêtes. Donc moi je suis pour que ce débat ait lieu, qu'il ait lieu de manière apaisée, qu'il ait lieu sur le fond, que les choses soient posées.
Et que c'était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron.
Et tout à fait, donc c'est très bien. Mais tout comme beaucoup d'autres choses qui vont être débattues sont des promesses de campagne ou sont des promesses qui ont été prises lors de la conférence de presse. Au Sénat, au mois de septembre, on aura ce texte sur le statut des maires et sur la réforme territoriale, qui est aussi une énorme attente vous voyez, des territoires et des sénateurs.
Il dernière reste 3 minutes.
Dernière Françoise. Précision sur la PME, elle sera bien remboursée par la Sécurité sociale?
Alors, je n'ai pas le détail du texte, donc je préfère ne pas vous dire oui ou non. Je crois que c'était quelque chose sur lequel, effectivement, Agnès Buzyn réfléchissait.
Mais vous le souhaitez?
Moi, je souhaite que les choses soient celles qui seront proposées. Je pense que si Agnès Buzyn y a travaillé, c'est pour que ça soit comme ça.
Non, mais en l'occurrence, vous étiez en charge de ces questions au Parlement et c'est
je ne me suis jamais occupé de la sécurité sociale, donc je crois
que c'est les questions de budget, en l'occurrence.
Le budget de la sécurité sociale, c'est la commission d'affaires sociales et je pense que si c'est proposé, eh bien, ça sera débattu. Donc, je vais pas vous dire ce qu'il y a dans un texte que je ne connais pas.
Alors, un sujet que vous connaissez, jeudi, vous rencontriez votre homologue albanais. Est-ce que l'Albanie peut espérer devenir membre de l'Union européenne?
On a toujours dit que les Balkans occidentaux, par définition, vu leur géographie, avaient une perspective européenne.
Oui.
On a toujours dit aussi que pour qu'il y ait un élargissement, il fallait que l'Europe se réforme de l'intérieur, parce que dans les conditions actuelles, ça nous paraissait une folie. Et on dit aussi que il faut qu'on travaille pour que, s'il y a des négociations qui s'ouvrent, elles soient liées aux réformes, notamment sur l'état de droit. Et donc, on a discuté avec cet homologue albanais de toutes les réformes pour l'état de droit. Ça veut dire la réforme de la justice, ça veut dire la lutte contre la corruption, ça veut dire l'organisation des institutions, la Commission européenne...
Mais la vocation de l'Albanie, est-ce que c'est d'intégrer l'Union européenne?
On a toujours dit que les Balkans occidentaux auraient une perspective européenne. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que les négociations sont allées assez loin? Ça sera des choses qui seront débattues dès mardi... au Conseil des Affaires Générales du Luxembourg, enfin au Luxembourg où je serai, et probablement dans les mois qui viennent. Ce sont des sujets très compliqués. Et puis ouvrir des négociations, on l'a vu pour certains pays, ça ne veut pas dire du tout l'adhésion. Je crois que la Turquie, vous voyez, ça fait plusieurs décennies aujourd'hui qu'elle est en négociation. Donc il faut garder les choses par étapes.
Le parti Ciudadanos, c'est l'allié de La République En Marche au Parlement européen. Ciudadanos s'allie en Espagne avec l'extrême droite de Vox. Faut-il les exclure du groupe Renew Europe? Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est le nouveau nom que vous avez choisi pour le parti centriste.
Ce qui est certain, c'est que je l'ai dit dans la presse espagnole, et donc je peux vous le redire ici, nous ne transigerons pas avec l'idée que quand on est un groupe pro-européen, eh bien, on ne fait pas d'accord avec l'extrême droite.
Oui, donc, ils l'ont fait. Vous l'avez dit, c'était avant, justement, que ces accords ne soient conclus, notamment pour la mairie de Madrid.
Et donc, nous allons appeler les députés européens membres de ce groupe Renouveler l'Europe centriste à beaucoup de clarifications. Est-ce qu'ils soutiennent ce qui se passe dans leur pays ou est-ce qu'ils ne le soutiennent pas? Et en fonction de ça, on pourra en tirer des conséquences.
Enfin, ils sont membres d'un parti qui s'allie avec l'extrême droite, en l'occurrence. Faut-il les exclure du groupe La République En Marche?
Eh bien, il faut leur demander s'ils sont toujours membres de ce parti.
Ça n'a pas l'air de choquer les Madrilènes qui ne sont pas tous dans la rue pour contester cette alliance.
Je crois que pour avoir lu un peu la presse espagnole, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est quand même, par rapport à ce qu'était Ciudadanos au départ, assez loin de l'esprit dans lequel s'était créé ce groupe, qui était un peu comme En Marche. Quelque chose qui voulait justement casser la logique droite-gauche, qui cherchait à être progressiste,
qui a fini par s'allier avec la droite et maintenant avec l'extrême droite.
Alors, donc c'est pour ça que je vous dis.
Mais est-ce que c'est pas de l'ingérence dans des affaires domestiques quand même?
Là, on parle du groupe européen, au Parlement européen, de gens qui vont travailler avec nous et on aimerait que dans notre charte de valeurs communes, il y ait bien clairement dit que nous ne soutenons pas des alliances avec des gens qui sont anti-migrants, parfois néo-franquistes, qui sont les partis d'extrême droite.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Espagnols.
Est-ce que c'est un acte 2 du quinquennat qui a commencé ou est-ce que c'est juste un slogan?
Moi, je pense que c'est un acte 2 parce que c'est d'autres réformes, c'est une autre méthode et puis c'est une proximité plus grande qu'on va chercher. Et j'espère une clarté plus grande aussi dans ce qu'on fait.
L'émission se termine. Merci à Amélie de Montchalin d'avoir répondu à nos questions. Bon dimanche. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.